L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Paris, en France, le docteur Youssef Girard, historien français et auteur spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Avec lui, nous allons évoquer le 69e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne le 1er novembre 1954 et l'héritage désastreux de la colonisation française. Nous nous intéresserons également à la symbolique que représente actuellement cette révolution populaire contre le colonialisme et l'impérialisme occidental, la plus grande du XXe siècle, notamment à l'égard de ce qui se passe au Proche-Orient et dans plusieurs pays africains. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Nous sommes en 1830. L'arrivée du corps expéditionnaire français en Algérie commence par le plus grand hold-up du 19e siècle. La couronne de France fait main basse sur le trésor d'Alger, soit l'équivalent de 70% du PIB de la France de l'époque. L'Algérie est ensuite livrée de 1830 à la fin du Second Empire de France, soit durant 40 ans, au rouleau compresseur militaire de l'armée française d'Afrique. Ce sont les officiers français eux-mêmes en charge du projet colonial du maréchal Bugeaud qui rapportent avec force détail les méthodes effroyables de cruauté utilisées pour soumettre la population algérienne. Les carnages de Blida, de Constantine, de Zatcha, de Larouat et de tant d'autres villes algériennes, les massacres de tribus entières par les enfumades, les humurements, les razzias, sans distinction d'âge ni de sexe, la destruction des récoltes, le pillage des silos et de troupeaux, avec pour résultat la désintégration totale de la population algérienne. Cette guerre de dévastation méthodique déstructure totalement la société algérienne qui éclate en une poussière d'individus miséreux et loqueteux, réduits à la survie élémentaire et livrés à la famine et aux épidémies. En 40 ans, la population est passée de près de 10 millions d'habitants à 2,5 millions. Ne retrouvant son niveau de 1830 qu'au début des années 1950, veille de la guerre de libération nationale. La spoliation foncière est l'autre arme de compression massive de la société algérienne. De grandes lois foncières abolissent la propriété collective des terres pour les faire racheter par les spéculateurs. Ce dispositif juridique, qui s'ajoute à la spoliation sauvage des débuts de la conquête et le bistouri de la vivisection sociale algérienne. Le colonisateur réduisait ainsi les Algériens à la clochardisation, les transformant en un peuple de mendiants errants figés dans leur statut de catégorie inférieure selon le code de l'indigénat promulgué en 1881 par Jules Ferry, faisant écho au code noir de 1685. On parlera pourtant de projet civilisateur à l'intention des Algériens estampillés comme une race inférieure, selon les propres termes de l'auteur de la démocratie en Amérique, Alexis de Tocqueville. De l'humaniste Ernest Renan et Victor Hugo, l'auteur des Misérables, le républicain Jules Ferry, etc. Cette idée encore largement répandue aujourd'hui que la colonisation était porteuse d'idéaux civilisateurs et de bienfaits, nous vient de ce que le clergé catholique et l'intelligentsia française de l'époque se soient très tôt mêlés au dessein de l'expansion coloniale en Algérie. Dès les débuts de la conquête, la dévastation militaire du pays s'est avancée drapée du manteau de l'humanisme et de la civilisation portée par les héritiers des Lumières de la Révolution française. À l'exacte image de ce qui s'est passé lors de la conquête des Amériques et l'extermination de dizaines de millions d'Indiens. Le discours civilisateur confronté à la réalité est l'une des plus grandes supercheries du 19e siècle colonial. En effet, la nature de l'entreprise coloniale en Algérie est en vérité la preuve que les Lumières n'ont jamais vraiment franchi les frontières de la France et que si elles sont porteuses de quelques bienfaits pour la population française, elles ont été à bien des égards le prétexte qui a engendré et justifié le pire des malheurs pour les peuples tombés sous la domination coloniale. La conquête de l'Algérie se déroule après 3 siècles d'humanisme, menée par les Bugeaud, Saint-Arnaud, Cavaignac, Pélissier, Comte-Robert, Montagnac, de la Mauricière et autres, tous soldats d'une nation qui se prévaut des Lumières et de l'universalité des droits de l'homme. Depuis le démembrement de l'Union soviétique, le monde a enregistré plusieurs anniversaires odieux d'agressions militaires occidentales, notamment américaines, illégales, qui honteusement se sont heurtées au même silence et à la même indifférence. En effet, il y a eu le bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, l'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement de la Libye en 2011, le tout en entrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Des millions de civils ont été tués dans ces conflits sous le même prétexte cynique de faire propager la liberté et la démocratie et de protection humanitaire. Et enfin, ce qui se passe actuellement pour la énième fois en Palestine, où les populations civiles de Gaza sont décimées sous les bombardements israéliens en réponse à une attaque des combattants du mouvement Hamas, occultant avec la complicité occidentale, notamment des médias mainstream, le fait colonial injuste dont le peuple palestinien est victime depuis 1948. Pour traiter ce sujet fondamental et donner les moyens à tous ceux qui sont épris de vérité et de justice, de penser par eux-mêmes et de déceler la bonne information du mensonge, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris en France le docteur Youssef Girard, historien français, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Youssef Girard, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci à vous pour votre invitation.
Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, avant de vous poser la première question, j'aimerais bien vous lire un petit texte qui a été écrit par le lieutenant-colonel Montagnac. C'est une déclaration d'un cynisme sauvage qui exprime tout l'esprit dans lequel vont se dérouler la conquête et l'occupation de l'Algérie. Alors, je cite, il dit « Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans. Prendre toutes les femmes et les enfants, anéantir tout ce qui ne rompra pas à nos pieds comme des chiens qui veulent la fin veut les moyens. » Voilà, fin de citation. Donc c'était l'un des hauts gradés du maréchal Bugeaud. Alors qu'en pensez-vous? Et est-ce ça la civilisation dont les défenseurs des bienfaits du colonialisme se gargarisent tout le temps?
Ce dont on a à faire face, en fait, à partir de 1830 en Algérie, c'est ce qu'on peut qualifier en toute objectivité d'une conquête génocidaire avec une population algérienne qui va être diminuée drastiquement, qui va passer, si on reprend les chiffres de la thèse de Kamel Kater, entre un tiers et 58% de la population algérienne qui disparaît entre 1830 et 1871. Donc on est face à une conquête génocidaire. Cette conquête génocidaire, elle a des buts politiques. Le premier but politique, c'est évidemment consolider la colonisation, mais c'est aussi établir une colonisation de peuplement. L'Algérie a caractéristique particulière, c'est que c'est une colonisation de peuplement, c'est-à-dire que la France va s'efforcer durant la période coloniale d'implanter sur le sol algérien une population européenne, des Français, mais également des immigrés, qui vont de espagnols, italiens notamment, ou maltais, qui vont obtenir la nationalité française et qui vont constituer le corps des Européens d'Algérie. Cette colonisation de peuplement, elle n'est possible que si on chasse les populations algériennes de leurs terres, soit en les éliminant physiquement, soit en les repoussant sur des territoires qui sont les moins intéressants, les moins productifs, c'est-à-dire les hauts plateaux. On va par exemple éliminer l'essentiel de la population de la plaine de la Mitidja, parce que la plaine de la Mitidja, qui se trouve au sud d'Alger, est productive. On peut y faire tout un tas de cultures, etc. Et on va expulser la population sur les hauts plateaux qui sont plus arides, etc. Donc, évidemment, quand il y a l'élimination physique par l'armée, mais le fait de repousser les populations hors des terres fertiles va aussi provoquer.
Comme résultat, la mort de milliers de gens.
De centaines de milliers de personnes. Par exemple, la grande famine de 1867, c'est environ 300 000 morts au sein de la population algérienne, qui est le résultat, tout simplement, si on prive une population de ses ressources alimentaires, forcément, ça entraîne famine. Cette conquête génocidaire, je pense qu'il faut, par contre, pas l'isoler de l'Algérie du reste du monde colonial, puisqu'on est dans cette période-là, dans une conquête génocidaire. Mais le phénomène de la conquête génocidaire est très largement répandu dans le monde. C'est la période, par exemple, de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, où il va y avoir le génocide des Amérindiens. C'est la conquête de l'Australie et le génocide des populations aborigènes. C'est la conquête de la Nouvelle-Zélande et le génocide des populations maoris. Etc. C'est aussi, par exemple.
C'est-à-dire, vous voulez dire que c'était une caractéristique, en fait, générale, pour ne pas dire universelle, de tout le système colonialiste de population dans les quatre coins du monde. Là où il a mis le pied, il a en fait mené la même politique.
En tous les cas, il y a eu une politique de massacre de masse, une politique génocidaire, notamment dans les zones où il y a colonisation de peuplement.
D'accord.
Ça, c'est une caractéristique.
Mais avant de passer à la deuxième question, Youssef Girard, est-ce que ce que disent justement, parce que l'idée qui est avancée, c'est qu'ils sont partis là-bas pour civiliser les sauvages. Alors prenons l'exemple de l'Algérie qui nous concerne aujourd'hui. Est-ce que c'était vraiment un pays vide, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien et que, ils sont venus pour peupler le pays et puis civiliser les quelques sauvages qui s'y trouvaient.
Alors ça, c'est la grande rhétorique de la colonisation. C'est l'idée qui est une idée qui vient du Moyen-Âge, de la période des croisades, qui est l'idée de terra nullius. C'est-à-dire que pour justifier les croisades, l'Église a dit que dans le territoire non européen, c'était les terra nullius, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Pour l'Algérie, concrètement, on sait, même par les partisans de la colonisation, dans son rapport, par exemple, Tocqueville, dit lui-même que en Algérie, il y avait des instituts, le taux d'alphabétisation était supérieur qu'en France, qu'il y avait des institutions éducatives, qu'il y avait un État qui battait monnaie, il y avait une institution de quelque chose. Et j'allais dire que, mais même s'il n'y avait pas eu d'État, même s'il n'y avait eu d'autres formes d'organisation que la forme étatique, est-ce que ça justifierait l'extermination de populations entières? En Kanaky, ce que les Français appellent aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, en Kanaky, il n'y avait pas d'État de type constitué comme en Algérie. Il n'empêche que 70% de la population kanak a disparu entre 1853, date où les Français mettent les pieds en Kanaky, et le début des années 20. L'extermination de population entière ne peut pas être justifiée par le fait qu'il n'y aurait pas eu d'État ou que le taux d'alphabétisation aurait été moindre.
D'accord. Bien. Alors, j'aimerais bien continuer dans le, parce que c'est très important. Le même Montagnac, donc le lieutenant-colonel Montagnac, écrivant à son oncle, il raconte, je cite encore, le cite encore parce que, à mon sens, il donne une idée de ce qu'a été la politique coloniale de population en Algérie. Ah, donc, dans cette lettre, il raconte, je cite, nous sommes dans les bois épais. Pêle-mêle avec les Arabes qui fuient, les chevaux qui renversent leurs charges, les chameaux qui se sauvent, les femmes, les enfants accrochés dans les épaisses broussailles qu'ils sont obligés de traverser, se rendant à nous. On tue, on égorge, les cris des épouvantés, des mourants se mêlent au bruit des bestiaux qui mugissent, belles de tous côtés. Chaque soldat arrive avec quelques pauvres femmes ou enfants qu'il chasse comme des bêtes devant lui. On ne sait que faire de cet immense butin et des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes en otage, les autres sont échangées contre des chevaux et le reste est vendu à l'enchère comme bêtes de somme. Parmi ces femmes, il y en a souvent de très jolies. Alors, je crois que c'est très clair. Alors, la violence qu'on reproche au mouvement de libération nationale, est-ce que, à votre avis, trouve-t-elle son explication dans cet héritage barbare de la conquête coloniale ?
Pour comprendre déjà la violence, indiscriminée, totalement déployée et revendiquée par les Européens durant cette conquête coloniale, je pense qu'il faut revenir à ce qu'est la colonisation dans son fondement. C'est ce que nous dit, par exemple, Franz Fanon. La colonisation, elle repose sur le fait que l'on coupe le monde, que l'on coupe l'humanité en deux. Cette humanité coupée en deux, il y a d'un côté des surhommes blancs, européens, et de l'autre côté, des sous-hommes, voire des non-humains, non-blancs, qui sont asiatiques, sud-américains, enfin, américains, océaniens, africains, etc., etc., qui sont tous sauf l'Europe blanche. À partir de là, ça entraîne une déshumanisation de la majorité de l'humanité, où on va d'ailleurs employer ce que Fanon appelle un langage géologique pour parler de deux, hein, là. L'extrait là-dedans, hein. On parlerait d'animaux, ça serait à peu près la même chose. Et donc, on est face à un processus de déshumanisation complet, et ce processus de déshumanisation peut permettre toutes les violences contre des êtres humains qui ne sont plus perçus justement comme des êtres humains, mais qui sont perçus comme des objets, des animaux, comme des infra-humains sur lesquels on peut déverser toute sa violence et toutes ses exactions possibles.
D'accord.
De fait, cette violence coloniale, elle a lieu pendant la conquête, mais après, elle va se poursuivre pendant toute la colonisation. Hein, parce que justement, on peut massacrer impunément. En Algérie, on pourrait revenir, par exemple, beaucoup plus tard sur les massacres du 8 mai 45. Évidemment sur toutes les violences et sous différentes formes qui ont été menées par les autorités françaises pour lutter contre la révolution algérienne entre 1954 et 1962,
hein, avec, oh, oui.
Tout ce qui a été largement étudié. Torture, le viol utilisé comme arme de guerre, les camps de regroupement, ce qu'on a appelé les crevés de Dijard, c'est-à-dire le fait que, par exemple, l'armée française prenait des Algériens, les jetait, les montait dans des hélicoptères, les jetait vivants dans la Méditerranée et on retrouvait des corps algériens qui se jouaient sur la plage. Appelé les crevettes de Bijard, du nom de Marcel Bijard, qui a été un des grands des grands militaires qui a mené à la fois d'abord la guerre d'Indochine, puis après la guerre d'Algérie pour lutter pour préserver l'empire colonial français.
D'accord.
Cette violence débridée, à mon avis, elle a son origine là, dans ce processus de déshumanisation du colonisé. Le colonisé n'est plus un être humain, il est justement un infra-humain sur lequel on peut, sur lequel les autorités coloniales, le monde colonial va déverser sa violence.
Bien. Alors, autre chose. Et bien, les méthodes de l'armée française sont diversifiées. Alors, la guerre sans loi livrée par l'armée de la française d'Afrique à la population algérienne commence en avril 1832, dont l'horreur du massacre des Aoufia. C'est une tribu paisible à l'est d'Alger, accusée sans enquête ni preuve d'avoir commis un vol. Et le récit de la dernière nuit des Aoufia, fait par l'officier Pélissier de Renault, est effroyable à ce titre. Il dit, je cite, « Tout ce qui vivait fut voué à la mort, tout ce qui pouvait être pris fut enlevé, on ne fit aucune distinction d'âge ni de sexe. En revenant de cette funeste expédition, plusieurs de nos cavaliers portaient des têtes au bout de leurs lances et l'une d'elles servit, dit-on, à un horrible festin. » Donc, je ferme la parenthèse. Fin de citation. Alors, l'armée d'occupation, à votre avis, a-t-elle ainsi inauguré la pratique de la responsabilité collective? Et quelles étaient ses conséquences de ce point de vue?
La responsabilité collective, c'est une des conséquences de la déshumanisation. Je reviens sur cette idée de déshumanisation, de scinder l'humanité. C'est une caractéristique de la colonisation. C'est-à-dire que pour qu'il y ait responsabilité collective, c'est que on nie l'humanité et l'individualité du colonisé pour faire des décolonisés en général une espèce de masse grouillante, indistincte, dans lequel tout le monde serait responsable les uns des autres et donc on pourrait punir indistinctement. Mais ça repose sur cette idée que justement, il n'y a pas que le colonisé n'est pas un être humain, que ce n'est pas un individu responsable de ses actes, etc. C'est une collectivité et que cette collectivité, elle est responsable dans son entièreté. Et donc, à partir de là, on peut, encore une fois, pratiquer toutes les violences, toutes les crimes de guerre. Donc là, vous citiez un extrait de qui représente l'horreur. Si on poursuit, hein, parce que cet extrait, je le connais bien, il raconte même que certains soldats français se promenaient avec des oreilles d'Algériens mis autour du cou, avec comme collier symbole de la victoire. Ce racontent les officiers français. Voilà, on est face à des trophées de guerre, comme un peu aussi. Des gens vont à la chasse et puis ils ramènent les têtes des animaux qu'ils ont chassés. On est face à un processus de déshumanisation totale de la population colonisée sur lequel on peut le civilisateur européen, entre guillemets, avec beaucoup d'ironie, se permet justement d'avoir déployé toute la barbarie.
Alors là, j'aimerais bien quand même qu'on pousse un peu la réflexion. L'horreur atteint son paroxysme au début des années 1840 et c'était le début des enfumades où l'on fume des tribus entières avec femmes et enfants. Alors l'enfumade est un horrible procédé qui consiste à enfermer les tribus hommes, femmes, enfants et bêtes dans des grottes et puis allumer des feux pour les enfumer et les tuer par asphyxie. Le plus médiatisé de ce genre de crime est l'extermination de la tribu des Ouled Riah, perpétrée par le colonel, justement, Pélissier, que je citais avant, dans la montagne du Dahra, l'ouest d'Alger. Et alors, il y avait 1000 morts, selon un témoin espagnol. Autre méthode d'extermination, c'est aussi il y a la razzia. L'armée d'Afrique met au point, dans ses moindres raffinements, une nouvelle méthode, la razzia, de guerre contre la population, c'est, et qui consiste à faire des raids dévastateurs, exterminateurs, appelés donc cela razzia. Bien. Alors ma question, c'est-à-dire pour vraiment pousser la réflexion sur les méthodes du système colonial, et voir est-ce que c'est vraiment une chose qui s'est arrêtée dans le 18e et 19e siècle, ou c'est une chose qui nous accompagne encore aujourd'hui. Alors ma question, Youssef Girard, ces méthodes étaient-elles occasionnelles ou systématiques durant la conquête coloniale de l'Algérie et sont-elles semblables à celles observées lors des conflits du XXe siècle, notamment le premier et le deuxième conflit mondiaux?
Alors, les méthodes, pas des exceptions. Les chiffres qu'on a donnés au début prouvent que c'est des méthodes qui sont systématiques. Hein.
Méthodiques.
Oui, et puis systématiquement appliquées, ces méthodes-là. Oui. C'est ça que je veux dire. Les chiffres le prouvent. Quand il y a entre un tiers et 58% d'une population qui disparaît en une quarantaine d'années, on est face à un processus génocidaire qui fait qu'on ne peut pas qualifier ça d'exception. Une exception, ce n'est pas une erreur de parcours, entre guillemets, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à l'acte de coloniser. Les témoignages, vous avez cité quelques témoignages d'officiers de la conquête, le prouvent. Hein, l'avantage entre peut-être aujourd'hui et la conquête de l'Algérie, c'est que les officiers écrivaient et racontaient presque fièrement leurs exactions. Donc, il suffit de, par exemple, sur le site de la BNF, hein, des Bibliothèque nationale de France, c'est des ouvrages qui ont été scannés, qui sont en libre accès. Donc, taper Montagnac, Pélissier, etc., etc., vous allez trouver leur récit de la conquête et comment, justement, systématiquement, les uns et les autres pratiquaient ce genre d'exaction sur la population algérienne. Mais au-delà de la population algérienne, c'est ce que je disais au début, c'est que ça s'inscrit dans une politique générale où ces pratiques vont être répandues aux quatre coins, dans d'autres pays d'Asie, dans d'autres pays d'Océanie, dans d'autres pays d'Amérique, dans d'autres pays d'Afrique. Mmh. L'une des conquêtes coloniales qui a le plus fait parler d'elle, enfin de mission coloniale, de mission militaire coloniale, hein, c'est la mission Voulet-Chanoine qui a été organisée pour la conquête de l'Afrique centrale et du Tchad en 1899, où même les autorités françaises ont fini par être effrayées de la violence de leurs propres officiers et des troupes qu'elles dirigeaient. Mmh. Parce que justement, c'était les colonnes qui étaient... pratiquaient une violence indiscriminée sur les populations d'Afrique centrale et du Tchad, du Niger actuel à peu près, hein,
oui.
où on massacrait des villages entiers. Hein. Il y a des villages qui sont totalement rasés pour cette mission. Et ce qui est intéressant par rapport à votre question sur la continuité, hein, c'est que cette mission et les exactions qu'elle a mises, elle a entraîné provoquer une réflexion, pas simplement en France, mais en Europe. Par exemple, Conrad, l'auteur anglais, s'est inspiré de des faits réels pour écrire Au cœur des ténèbres. Et beaucoup plus récemment, c'est une exaction commise par cette mission Voulet-Chanoine qui a inspiré le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, qui raconte la. S'inspire de cette histoire, mais dans le contexte de la guerre du Vietnam. Et ce qui montre, à mon avis, justement, la répondre à votre question, c'est la continuité de ces pratiques coloniales de guerre indiscriminée au XXe siècle. Par exemple, évidemment, pendant la répression de la révolution algérienne, hein, par exemple, dans sa thèse de doctorat sur la Wilaya 4, la Wilaya d'Algérie centrale, l'historien algérien Mohamed Tedia rapporte les propos d'un soldat français qui dit, je cite, les Oradour, donc en référence au massacre d'Oradour sur Glane commis par l'armée allemande, donc un village français qui a été totalement rasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il dit, les Oradour, on en faisait tous les jours en Algérie. Pendant la guerre, c'est un soldat français qui dit ça. C'est pas un Algérien. Mmh. Donc, ces pratiques de violence indiscriminées, elles ont continué, mais on pourrait voir qu'elles ont continué aussi, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, qui a été menée par les États-Unis, où on a massacré des millions de Vietnamiens, où les Américains ont jeté, par exemple, de l'agent orange sur les villages. Les villes et les villages et les campagnes vietnamiennes. Et il y a encore aujourd'hui des enfants vietnamiens qui naissent avec des malformations en raison de la contamination à l'agent orange des terres.
D'accord. Bien. Alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Youssef Girard, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Youssef Girard, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
Merci à vous pour l'invitation encore une fois.
C'est moi qui vous remercie. Alors, maintenant, j'aimerais bien quand même qu'on aille un peu traiter de l'actualité internationale, mais pas en analysant les intérêts des uns et des autres, pourquoi il y a des conflits autour, mais pour essayer de comprendre comment la logique et comment le paradigme, comment la philosophie de la colonisation de population ou du système colonial en général influence encore les politiques actuelles dans beaucoup de régions du monde, notamment celles des grandes puissances occidentales. Bien. Alors, à l'instar de ce que nous avons pu voir durant la seconde guerre du Golfe en 2003, qui a mis fin au règne de Saddam Hussein, en Libye en 2011, puis en Syrie, les premières heures de l'opération lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien Hamas sur les colonies israéliennes au large de la frontière de la bande de Gaza, des articles et des diffusions en boucle à longueur de journée ont fleuri sur les sites et les journaux, les radios et les télés occidentaux. Et le même narratif et mots d'ordre sont ressassés. Condamnation sans appel des actes terroristes inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inaliénable d'Israël de se défendre avec tous les moyens à eux. Un traitement auquel, bien sûr, le conflit en Palestine, latent depuis près de 75 ans, est habitué. Alors, ma question, qu'en pensez-vous d'abord, Youssef Girard? Est-ce que là, on ne retrouve pas les mêmes méthodes du colonialisme, la responsabilité collective, la déshumanisation, tout ce que vous avez décrit dans la première partie?
Déjà par rapport à ce que vous dites sur le discours dominant en Occident en général et singulièrement en France, je rappellerai encore une fois les propos de celui qui a sûrement été un des meilleurs analystes de la colonisation, c'est-à-dire Frantz Fanon, qui nous disait donc dans Les damnés de la terre, c'est un vieux livre maintenant, que dans le discours médiatique des journalistes occidentaux qui se voulaient toujours neutres, qui appelaient toujours à la neutralité, à l'objectivité. Enfin, nous, on disait que pour le coloniser, la neutralité, c'est toujours contre lui. Que c'est la neutralité du discours médiatique, c'est toujours contre le colonisé, c'est jamais en sa faveur. Je crois que cette appréciation générale du discours médiatique
Est-ce que vous pouvez expliquer encore un peu plus, parce que c'est très important ce que vous dites là, d'expliquer un peu ces mécanismes et la psychologie qui se cache derrière?
C'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on va présenter un discours, le discours dominant va se présenter comme non idéologique, neutre, objectif. Fanon nous dit que l'objectivité, la neutralité, dans ce sens-là, l'objectivité, le fait d'être objectif, c'est toujours destiné à être une arme du discours contre le colonisé.
D'accord.
Et donc, évidemment, il parle, c'est dans Les damnés de la terre, hein, il parle évidemment du cas algérien et de la façon dont est traitée la révolution algérienne, le FLN, etc., dans les médias dominants.
D'accord. D'accord.
Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est général. Après, sur le discours sur la Palestine, je pense qu'il faut tout simplement, encore une fois, revenir à l'histoire, c'est-à-dire à ce qui s'est passé en 1947. En 1947, le 29 novembre, il y a eu le vote du partage de la Palestine à l'ONU, où on a partagé une terre sans consulter les populations qui vivait dessus. C'est-à-dire qu'on s'est les grandes puissances se sont arrogées le droit.
Et qui étaient en ce moment-là des puissances coloniales, appelons-le, parce qu'il y avait encore les colonies de...
Oui, oui. Et puis, à cette époque-là, les pays qui sont aujourd'hui à l'ONU, il n'y a quasiment pas de pays africains à l'ONU en 47, puisque toute l'Afrique est quasiment colonisée. Une grande partie des pays asiatiques ne sont pas à l'ONU puisqu'ils sont colonisés. Ce qui est représenté à l'ONU, c'est essentiellement les puissances occidentales. Et donc ces puissances-là s'arrogent le droit sans consulter les populations, pas fait de référendum ou de processus de consultation. S'arroge le droit de décider à la place de la population qui vit sur place de comment va s'organiser politiquement leur territoire. Donc là, encore une fois, on est face à un processus de considérer que ces êtres humains-là ne sont pas en capacité de décider par eux-mêmes de ce que doit être leur organisation politique. On est face à un processus de négation de l'intelligence, de la réflexion, de la raison de la population concernée et qu'on peut décider à la place de ces populations comment elles doivent s'organiser, comment les pouvoirs doivent être répartis, etc., etc. C'est intégralement un processus de déshumanisation.
Quand on analyse ces processus dans l'histoire, c'est-à-dire que, est-ce que, in fine, et par ricochet ou par passivité intellectuelle et politique, même les populations des pays qui pratiquent ce colonialisme finissent eux-mêmes par subir les mêmes méthodes. Peut-être pas avec la même cruauté, mais c'est un peu ça.
Césaire, dans son fameux discours sur le colonialisme, parle de l'ensauvagement du colonisateur, c'est-à-dire que le colonisateur en commettant des actes de conquête génocidaire, de massacre de masse, de crimes contre l'humanité aux quatre coins du monde, finit par ce que Césaire appelle l'ensauvagement, c'est-à-dire avoir un comportement, être victime lui-même des propres actes qu'il commet,
voilà.
et par appliquer ce type de politique barbare et sanguinaire à sa propre population. C'est comme ça que Césaire explique l'expérience du fascisme et du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Hannah Arendt, la philosophe, dit la même chose dans ses origines du totalitarisme, où il y a un tome entier sur l'impérialisme et comment l'impérialisme a favorisé les totalitarismes européens.
D'accord. Bien. Alors, l'attaque du Hamas contre Israël, et bien sûr, ne sont pas là pour justifier l'assassinat de civils d'un côté comme de l'autre. Quand on s'attaque à un civil, on tue un civil ou on l'emprisonne, tous ces actes-là sont condamnables. Le terrorisme, ce n'est pas une idéologie, c'est une méthode de faire, pour que les choses soient très claires. Mais je crois qu'il est l'un des signes de la fin de la Pax Americana, c'est-à-dire l'Americana, l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés. C'est le chroniqueur de Bloomberg, Ol Brands, qui le dit. Alors, qu'en pensez-vous? Et qu'est-ce que cela signifie dans la situation actuelle, notamment en Afrique? Est-ce que il y a une nouvelle ère d'affranchissement des méthodes d'oppression reconduites par le néocolonialisme, héritées du colonialisme?
Déjà, je pense qu'il faut définir ce que l'on entend par Pax Americana, parce que ça voudrait dire paix américaine pour beaucoup de pays du monde.
Je l'ai mis entre guillemets, ça, bien sûr.
Oui, non, mais bien sûr, mais c'est juste pour que les auditeurs aient bien... Enfin, je pense qu'ils en ont conscience, mais qu'on ait tous bien conscience de ce que signifie la Pax Americana. La Pax Americana, dans les pays arabes, dans le monde arabe principalement, ça a été donc pas du tout une paix, mais ça a été une guerre. C'est ce qui a été théorisé par un certain nombre de stratèges américains comme sous le nom d'instabilité constructive. L'instabilité constructive, c'est ce qui est à l'origine de l'implosion d'États dans le monde arabe, comme l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, et des intentions dans d'autres pays qui n'ont pas implosé, mais qui... C'est quoi cette idée d'instabilité constructive? C'est l'idée que les États-Unis et l'Occident en général auraient, alors ça c'est le discours officiel, pour mission d'exporter la civilisation, la démocratie, etc., etc. Derrière ce discours se cache une représentation de l'espace arabe qui a été notamment largement fabriquée par un orientaliste qui s'appelle Bernard Lewis, qui voudrait que qu'il n'y ait pas de société unie, mais qu'il y ait uniquement des groupes, soit des groupes ethniques, soit des groupes confessionnels, et que, donc, pour justement favoriser cette instabilité constructive, il faudrait s'appuyer sur jouer les groupes les uns contre les autres pour faire éclater les États en place. Et que ça aboutisse, in fine, à l'éclatement des États en présence et donc à l'impuissance de ces pays, impuissance politique, impuissance économique, impuissance culturelle.
Et militaire. Ça,
évidemment, c'est une impuissance généralisée de ces pays-là. C'est ça qu'il y a derrière l'instabilité constructive. Et en plus, une guerre généralisée entre ces micro-groupes qui seraient appuyés les uns contre les autres. Cette idée-là est un recul Donc c'était une idée qui a été mise en place, qui a été développée et mise en place à partir des années 2000, hein, notamment au moment de l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. C'est un recul considérable par rapport au projet des années 50-60. C'est-à-dire que dans les années 50-60, l'idée des États post-coloniaux, c'était de dépasser justement les frontières héritées de la colonisation pour proposer un projet unitaire arabe du Golfe à l'Atlantique sous différentes versions, etc. etc. Mais en tous les cas, c'était un projet unitaire, qu'il soit fédératif ou autre, c'était l'idée d'un projet unitaire. Cette idée, elle a complètement été évacuée. Et aujourd'hui, les gens qui s'opposent justement à l'instabilité constructive en sont réduits à défendre des États postcoloniaux contre le fait qu'on les redécoupe en espèces de micro-États pour des groupes, en fonction de groupes, soit religieux, soit ethniques.
D'accord.
Donc, c'est ça la PAC américana, c'est évidemment un danger. Et vous parlez d'Afrique, c'est aussi un danger pour l'Afrique parce que ce projet d'instabilité constructive qui a été appliqué aux pays arabes, la colonisation l'a appliqué aussi sous ce nom-là aux pays africains en jouant tel groupe contre tel autre avec les drames que ça a pu entraîner dans certains pays d'Afrique.
D'accord. Bien, alors c'est clair. La question suivante, tout le monde a pu remarquer que quelques semaines après l'élargissement des BRICS à l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, soit trois poids lourds de l'OPEP et l'Égypte, contre toute attente, c'est là, ce moment-là, peut-être il y a eu aussi des pourparlers pour une normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël, mais aussi avant même le sommet des BRICS, il y a eu la normalisation effective avec l'aide des Chinois, en particulier des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et c'est à ce moment-là que le mouvement palestinien, donc Hamas, exécute depuis le 7 octobre une opération militaire de grande envergure, incluant des forces terrestres, aériennes et maritimes. Bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'analyser la question, justement, de cette idéologie, de cette philosophie coloniale et colonialiste, comment elle se diffuse encore dans les relations internationales actuelles. Parce que on peut bien trouver un autre moyen d'aborder nos différences idéologiques et la contradiction de nos intérêts par un autre moyen que celui de la domination, de la guerre, de la fourberie, et ainsi de suite. Alors, comment lire ces événements à l'aune des changements forts et vertigineux dans la géopolitique mondiale? Et comment, à partir justement de la pensée de Frantz Fanon, parce que c'est très important, lui il analyse ces phénomènes-là en profondeur, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours cette même mentalité diffuse, même si elle est un peu masquée ou maquillée avec le discours sur la liberté, la démocratie, ainsi de suite, les droits de l'homme et tout, est toujours là?
Oui, je vous répondrai catégoriquement oui, elle est toujours là parce qu'elle vient défendre des intérêts et que les nations occidentales ne vont pas renoncer à leurs intérêts stratégiques. C'est d'ailleurs pourquoi entre les différents, par exemple, présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, il y a des différences de nuances dans la politique étrangère, mais la politique étrangère est globalement maintenue sur des lignes de force continues parce qu'il y a des intérêts, économiques, culturels, géostratégiques, etc., qui sont derrière. Mais ce que j'allais vous dire sur le discours sur la démocratie, la civilisation des droits de l'homme, il faut, à mon avis, reprendre ce qu'un philosophe afro-américain qui s'appelle Chas Mills a décrit dans un livre qui s'appelle Le contrat racial. qui est largement inspiré de Fanon dont vous parliez, hein, où il explique que, en fait, toutes ces notions-là doivent être prises, enfin, le contrat social qui est derrière ces notions de démocratie ou de droits de l'homme doivent être prises dans le cadre d'un contrat racial, c'est-à-dire que ces notions-là s'appliquent à l'homme blanc, à l'homme occidental, mais dans le contrat racial ne s'appliquent pas aux catégories non blanches qui sont sorties de ces notions-là. En tous les cas, pour reprendre un exemple plus concret, celui du TPI, du Tribunal pénal international, oui. On voit par exemple que certains dirigeants, par exemple africains, passent, sont poursuivis par le TPI, mais que George W. Bush ou Tony Blair ne passeront jamais devant le TPI. Pourtant, ils ont mené une guerre illégale en 2003, ils ont envahi l'Irak, ça a créé plusieurs millions de morts. On voit bien que les millions de morts irakiens ne sont jamais jugés devant le Tribunal pénal international. Voilà. Donc là, on est face à un contrat racial qui fait que la justice pénale internationale peut s'appliquer sur Laurent Gbagbo, mais ne peut pas, c'est un exemple, hein, pour d'autres, mais ne s'appliquera jamais sur un président américain ou sur un premier ministre anglais, même si ils ont enfreint le droit international. Mmh. Mais je pense qu'on est aussi dans la perception du monde, et c'est ce que montre la crise actuelle, sur une coupure assez nette, et même quasiment une impossibilité de dialogue entre la façon dont le Sud global perçoit les événements et les pays du Nord perçoivent les événements. Là, juste avant qu'on commence votre émission, j'ai vu je lisais les réactions de la diplomatie bolivienne, donc un pays quand même qui est assez loin de l'arc de crise, on va dire. Mmh. La différence qu'il y a entre donc la diplomatie bolivienne et, par exemple, les différentes diplomaties européennes est frappante de cette fracture qu'il y a entre le Sud global et le Nord.
Ouais. Donc, en réalité, disons que, quelque part, le monde est encore bien ancré dans le piège du paradigme colonial, d'un côté comme de l'autre.
Bah, le paradigme colonial ne peut s'effacer que par une remise en cause fondamentale de cette idée qu'il y aurait une humanité qui est coupée en deux. Parce que cette idée qui dirige le monde colonial depuis la conquête des Amériques, cette idée du partage du monde en deux, entre une surhumanité, entre des surhommes européens et des sous-hommes non-européens, elle est forcément productrice de violence et d'une impossibilité de dialogue. Donc, ça, tant que cette il n'y aura pas une remise en cause fondamentale de cela, il y aura toujours un fossé qui séparera l'humanité en deux.
Bien. Alors, une dernière question, Youssef Girard, sur on sait de politique internationale que j'aimerais bien analyser avec vous. Alors, on a les guerres et les interventions secrètes menées par les États-Unis en Somalie, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Géorgie, en Ukraine. Et ça, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, quand même, c'est très court de voir que ce nombre de conflits qui ont été déclenchés, mais du point de vue russe, tout ça était les petits pas de l'expansion de l'OTAN vers la frontière de la Russie, donc, et de la mise en danger de la sécurité nationale et de la souveraineté de la Russie. Et c'est dans ce contexte, à mon sens, alors que l'ONU et son Conseil de sécurité sont relégués à un rôle de figurant dans la scène internationale, qu'il convient de comprendre et d'évaluer les affrontements actuels en Palestine et en Ukraine. Parce que le problème, c'est que, en particulier dans les médias, certains analystes, ou la majorité, pour ne pas dire tout le monde, ils ne voient pas les problèmes dans le temps long. C'est comme si on a l'impression qu'il croit beaucoup plus à la génération spontanée. C'est comme si les problèmes surgissaient comme ça par accident ou d'un seul coup, sans que personne n'y voit leur dynamique qui les génère dans le temps long. Et en plus de ça, donc, la montée aussi militariste incessante contre la Chine en Asie-Pacifique à cause de Taïwan. On est toujours dans la même chose, dans la même logique. Alors, la question, de ce point de vue, Youssef Girard, en quoi l'opération, par exemple, militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens, comme l'ex-Yougoslavie et asiatiques ? Et quid des violations des droits de l'homme partout dans le monde, en Afrique aussi, et en Palestine actuellement?
J'allais vous dire, la différence fondamentale, encore une fois, c'est le paradigme colonial. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont des Européens blancs. Donc, toute agression d'un Européen blanc est un crime contre l'humanité parce que les Européens blancs sont des êtres constitutifs.
Et c'est vrai que, excusez-moi juste de faire une toute petite parenthèse, tout le monde se rappelle du discours de beaucoup de journalistes quand l'opération spéciale russe a commencé, et qui criaient sur les plateaux, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Palestiniens, ce ne sont pas ceci, cela, ce sont des Européens blancs aux yeux bleus qui... voilà, c'est quand même incroyable.
Oui, mais dans les, j'allais dire plus loin que les commentaires journalistiques dans les politiques européennes. C'est-à-dire que l'Europe, pendant des années et encore aujourd'hui, a construit des murs pour empêcher les réfugiés d'Afrique et d'Asie, syriens par exemple, d'arriver en Europe. L'Europe finance des programmes pour bloquer tout déplacement de population, pour empêcher donc dans les pays limitrophes de l'Europe, soit au sud de la Méditerranée, soit à l'est, pour empêcher ces gens de venir. Et l'Europe a accueilli les bras ouverts en toute bienveillance et humanité, ce qui en soi, vous êtes d'accord avec ça, hein. 8 millions d'Ukrainiens. La seule chose avec laquelle je suis pas en désaccord, c'est pas qu'on accueille des Ukrainiens qui
fuient la guerre. Bien sûr. L'idée de sauver des civils, bien sûr.
Entre un Ukrainien qui fuit une zone de guerre pour protéger sa famille légitimement et la différence entre un Syrien ou un Érythréen qui fuit une zone de guerre pour protéger sa famille légitimement. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui doit être bloqué dans un camp de réfugiés à l'extérieur de l'Europe et on crée des barrières et on préfère qu'il se noie dans la Méditerranée parce que c'est ce qui se passe concrètement? Pourquoi est-ce qu'il y en a un qu'on traite en le déshumanisant comme ça et dont sa mort n'a finalement peu d'importance, et que l'autre est accueilli les bras ouverts? Si on pense que l'humanité est une et que la vie d'un homme, quelle que soit sa couleur, sa religion, etc., a le même prix, les portes devraient être autant ouvertes à un réfugié, quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa couleur de peau, etc., etc. Mes propos sur les réfugiés devraient être des propos généraux sur l'humanité, c'est-à-dire comment justement remettre en cause cette frontière coloniale, comment contester cette idée qu'il y a une humanité coupée en deux pour ce que disait Fanon en conclusion des damnés de la Terre, refaire une histoire de l'homme, c'est-à-dire de l'homme dans son entièreté, indistinctement de ce qu'il est.
D'accord.
Ça c'est un projet qui nous dépasse quand même.
D'accord. Bien. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Youssef Girard, je vous remercie pour tout cet effort. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question et ses multiples facettes et ses conséquences. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du mouvement national algérien et de la guerre d'Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.